Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, le face-à-face.
Et le face-à-face ce matin, on accueille en studio Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro et vous Alain Auffray, journaliste à Libération.
Bonjour.
Bonjour Alain. Tous les deux, vous allez débattre ce matin de cette question. François de Rugy a-t-il démissionné trop vite? Est-ce que ça a été trop vite, Eugénie?
C'était mieux.
Oui, je le pense parce que au vu des dernières révélations, notamment l'enquête parlementaire, on s'aperçoit que l'accusation se dégonfle un petit peu puisque il n'y a pas d'affaire de logement social. Il y a en effet 66 invités, 14 dîners, mais qui étaient des dîners professionnels selon le rapport de parlementaire. Donc oui, je pense que François de Rugy aurait dû au moins attendre les conclusions de ce rapport. Et je pense qu'il est quelque part victime de ce nouveau monde dans lequel on vit, où le temps médiatique s'impose au temps judiciaire et où finalement la suspicion vaut accusation. Et je déplore qu'on perde comme ça la présomption d'innocence et qu'on suspende l'état de droit. Et il aurait dû au moins attendre les résultats de l'enquête. Et je pense que Mediapart, notamment Edoui Plenel, qui a dit il n'a pas démissionné assez tôt, il aurait dû démissionner dès le début des révélations, fait preuve d'une hubris assez coupable et comparable d'ailleurs à celle des politiques, et il s'arroge un pouvoir qui n'est pas qui n'est pas son rôle.
Péché d'orgueil des journalistes, est-ce qu'il a démissionné trop tôt, François de Rugy, Alain Auffray?
Je pense pas qu'il pouvait faire autrement, c'est ça le problème. Donc je peux dire comme Eugénie, peut-être qu'il aurait dû attendre les résultats d'enquête, mais la vérité c'est qu'il pouvait pas faire autrement à cause d'un système qui est en place, qu'on peut regretter, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que on a bien vu le dernier déplacement qu'il a fait, enfin le premier déplacement qu'il a fait après les révélations de Mediapart, on agitait des homards gonflables sous son nez et il voyait bien que ça ne cesserait jamais. Y compris d'ailleurs, moi je pense, après les résultats de l'enquête. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est peut-être cruel, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est que, étant retiré, les résultats maintenant qui nous apparaissent des enquêtes, après on va naturellement les discuter, mais lui donnent une plus grande liberté pour se défendre. Il est beaucoup plus à l'aise.
Est-ce qu'il pourrait revenir? Est-ce que ça peut marcher dans l'autre sens, Alain?
Revenir, non, je vois vraiment pas comment il pourrait revenir.
Même si on se rend compte qu'en réalité, aux yeux en tout cas de la légalité, il n'aurait pas commis de faute.
Je pense pas qu'il en aura envie, très franchement. Je crois que l'histoire est passée. Ben, ce dont il a très envie, on verra s'il y arrive, c'est de démontrer qu'il a été victime d'un acharnement assez disproportionné. Mais la perspective d'un retour, une fois établie une innocence, ça va être difficile. D'autant que il faut s'attendre, peut-être qu'on aura le temps d'en parler un petit peu, il faut s'attendre à ce que le gouvernement prenne quand même des initiatives d'aller encore un peu plus loin dans la réduction du train de vie, en tout cas le contrôle du train de vie, ce que là, pour le coup, je trouve pas normal du tout. Et donc, d'une certaine manière...
Comment les règles soient claires, Alain?
Ouais, alors on progresse, hein.
Moi je pense qu'il faut pas aller plus loin, que ça ne sert à rien, parce que le problème de la transparence c'est un cycle infernal, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de fond finalement, et on le voit très bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on promet l'exemplarité, la transparence, que ces gouvernements vont dans ce sens-là, ils se font toujours rattraper par leurs propres promesses. Et ce que demandent les gens au gouvernement, c'est d'être efficace, ce n'est pas d'être exemplaire. Il demande par défaut l'exemplarité quand il n'a pas d'efficacité. Mais je crois que pour résoudre la crise de confiance qui est indéniable entre les élites et le peuple, la transparence contribue davantage à creuser cette crise de défiance, puisqu'elle met en avant systématiquement les turpitudes de nos élites, alors qu'en réalité, elles sont quand même beaucoup plus contrôlées, et beaucoup plus d'ailleurs vertueuses qu'elles ne l'étaient il y a 20, 30, 50 ans, parce qu'on prend toujours l'exemple de De Gaulle qui payait ses factures, mais l'ensemble de la classe politique n'était pas aussi vertueuse. Et on creuse le déficit démocratique.
Est-ce que ça veut dire, Eugénie, que si le gouvernement avait des résultats plus probants, on serait moins exigeant.
Si vous prenez Trump et Salvini par exemple, ils ont des cotes de popularité à faire jalouser Macron et compagnie, mais ils ne sont pas du tout exemplaires dans leur vie privée. Ils ont des tas d'affaires, que ce soit de mœurs ou d'argent, mais ils font ce qu'ils ont promis, leur programme politique, et ils ont une certaine popularité. On peut ne pas être d'accord évidemment avec leur programme, mais force est de constater qu'ils font les promesses pour lesquelles ils ont été élus. Et c'est ça que demandent les peuples, ce n'est pas une espèce de
qui du coup est moins regardant sur les affaires.
Voilà, exactement.
Oui, mais vous dites vous-même que les hommes politiques, c'est d'ailleurs dans l'entretien avec Régnier ce matin dans le Figaro, sont jamais été aussi honnêtes qu'ils le sont aujourd'hui. Mais les progrès, les investigations, l'affaire Cahuzac, l'affaire Fillon, avec tout ce qu'on peut dire du fond, n'y sont pas pour rien. C'est-à-dire, il y a eu des progrès du fait justement de cette demande de transparence. Donc moi, je trouve que on peut là pour le coup, on peut vraiment progresser là-dessus. On peut même, vous savez, il y a une époque où moi je trouve qu'on pourrait continuer de s'interroger là-dessus. Est-ce qu'il est normal que le gouvernement de la France soit logé dans des palais aristocratiques du 18e siècle, vous les connaissez comme moi, ce sont des endroits qui ne sont pas des endroits de travail, c'est assez étrange. Oui. Il y a des ministres, Thierry Mandon, quand il était au gouvernement Hollande, avait lancé cette idée-là. Je connais d'autres ministres de ce gouvernement aujourd'hui qui pensent ça, qui disent, c'est pas normal, Matignon, l'Élysée à la rigueur, mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans des palais du 18e siècle, avec ces parcs derrière, etc. Voilà, donc, non, moi je pense qu'il y a encore des progrès à faire, franchement.
Un dernier mot là-dessus.
Oui, non, mais c'est un débat, mais que l'on change les choses par la loi, tout à fait. Moi, j'y suis favorable. Mais d'ailleurs, le cas Rugy montre que lui n'a pas enfreint certaines règles. Donc, oui à la loi, oui au droit, non au lynchage et au procès médiatique.
Et la question d'accord. de l'efficacité est quand même reste toujours au cœur. Merci pour ce face-à-face, Alain Auffray, Eugénie Bastier. Vous serez avec nous tous les matins cette semaine.